Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Si notre siècle donnait encore sa place au sacré, s'il devait s'élever un sanctuaire du cinéma, j'y mettrais pour ma part l'œuvre du metteur en scène japonais Yasujirō Ozu. C'est Wim Wenders qui parle ainsi du réalisateur japonais dans son film hommage Tokyo Ga. Les films d'Ozu parlent du long déclin de la famille japonaise, dit Wenders, et par là même du déclin d'une identité nationale. Ils le font sans dénoncer ni mépriser le progrès et l'apparition de la culture occidentale ou américaine, mais plutôt en déplorant, avec une nostalgie distanciée, la perte qui a eu lieu simultanément. Aussi japonais soit-il, ces films peuvent prétendre à une compréhension universelle. Vous pouvez y reconnaître toutes les familles de tous les pays du monde, ainsi que vos propres parents, vos frères et sœurs, et vous-même. Pour moi, le cinéma ne fut jamais auparavant et plus jamais depuis si proche de sa propre essence, de sa beauté ultime et de sa détermination même de donner une image utile et vraie du XXe siècle. En 2007, dans Une histoire du cinéma, c'est un autre grand admirateur de son œuvre, Jean Douché, qui analysait le cinéma de Yasujirō Ozu.
Au revoir, Monsieur Lang.
Au revoir. À bientôt, j'espère.
Ulysse vers la mer.
Ulysse vers le mare.
Monsieur Lang, on est prêt.
Merci.
Silence, on tourne.
Silencio, si gira.
Silencio.
Caméra.
Moteur.
Motore.
Partito.
Odissea 14702 prima.
Une autre histoire du cinéma.
Avanti.
Azione.
Par Jean Douché et François Kodak.
Travelling.
Carello.
Aujourd'hui, Ozu. Ozu, l'autre grand, très grand cinéaste japonais. On peut dire que Mizoguchi et Ozu sont la représentation même de la grandeur de ce cinéma japonais qui était quand même un cinéma extrêmement riche, et extrêmement abondant, et en auteurs et en grandes œuvres. Ozu est le cadet de Mizoguchi, un cadet très très court auprès du temps, puisqu'il y a 5 ans de différence, et d'ailleurs très curieusement, ils vont commencer à tourner, à devenir metteurs en scène, à 5 ans de distance aussi, hein, Mizoguchi en 22 et Ozu en 1927. Alors donc, il a commencé lui aussi par le muet, mais on peut pas dire que le parlant en 1930 soit intervenu rapidement dans son œuvre. Au contraire, nous sommes au Japon, et au Japon, le cinéma muet a duré beaucoup plus longtemps. Il a duré jusqu'en 1936 pour une raison fort simple, c'est que ce cinéma muet était animé, commenté par des genji, c'est-à-dire au fond des bodimenteurs qui racontaient le film pendant que le film passait, si bien que dans les années 1925-30, les gens venaient voir ou entendre le bodimenteur beaucoup plus que le film. Donc on venait pour le bodimenteur et non pas c'était lui qui était la vedette du film. Donc lorsque le cinéma est devenu parlant, les genji, les bodimenteurs, ont fait des sortes de pressions pour que l'on garde le cinéma muet. Et c'est pour cela qu'il a fallu attendre 1936 pour que, enfin, le cinéma parlant se répande. Il ne faut pas quand même penser que le cinéma parlant n'est pas arrivé avant au Japon. Il y a eu des films parlants avant 1936, à commencer déjà par un ou deux films de Mizoguchi. Mais, dans l'ensemble, ce cinéma parlant a commencé donc en 36. Alors, de 1927 à 36, Ozu va travailler dans un genre qui, à l'époque, a énormément de succès. Un genre inspiré directement du cinéma américain et en particulier du burlesque américain. Et son cinéma sera, en effet, un cinéma plus ou moins de comédie, avec plein de gags. Et son film le plus célèbre dans ce domaine, en tout cas pour ce qui nous en reste aujourd'hui, c'est Les Gosses de Tokyo, qui est d'ailleurs un film qui a encore énormément de succès et que lorsque l'on passe dans les écoles, obtient auprès du jeune public un triomphe tout à fait remarquable.
Oi, ちょいと待ってしてみな。どうだい?
Tourne
Corda. T'as besoin de quoi?
Oui, tout standard. Oui, Dio.
Tout standard. Oui, yo.
Quand le cinéma, justement, devient parlant, il va aller vers un cinéma tout à fait différent, non pas tragique, jamais, mais où le ton de comédie sera plus masqué, un peu plus assourdi, un peu plus, au fond, passant à la nostalgie, passant à une sorte de mélancolie. Alors, quelle est l'invention profonde de Ozu par rapport aux autres cinéastes, et surtout par rapport donc à la conception même de l'appareil cinématographique, eh bien, ce sera quelque chose de très simple. D'abord, un retour à la manière de Buster Keaton. C'est donc pas pour rien qu'il y a aussi ce ton de comédie et de burlesque dans le cinéma de Ozu, puisque son origine, justement, c'est le burlesque américain. Et de Keaton, il garde cette construction extrêmement précise, dont nous en avons parlé, qui est à la fois perpendiculaire, horizontalité. Horizontalité, d'un seul coup, cassé par une perpendicularité qui arrive, qui donne un mouvement et qui ensuite revient à l'horizontalité. Alors ça, il suffit de voir n'importe quel film de Ozu pour se rendre compte de cette construction. C'est assez systématique et même on peut dire que Ozu, par rapport à Mizoguchi, sa grande différence, c'est que sur Ozu, tout est système et que le système se voit et que le système est visible immédiatement. Il ne se cache pas, au contraire, il se manifeste. Et à partir du moment où il est parfaitement accepté par le spectateur, Ozu va en tirer toutes les conséquences les plus intéressantes. Une des conséquences qu'il va en tirer, et qui est tout aussi importante dans le système, c'est la place de la caméra qu'il choisit. Il est le premier à imposer une place à cette caméra définitive, qui est celle, comme il le disait lui-même, celle de la place du chien dans la famille, c'est-à-dire en bas, quasiment sur le plancher, et en train de regarder par-dessus ce qui se passe. Comme si vous voulez, l'idée profonde qui préside à ce choix est que ce qu'il faut montrer, c'est tous les rapports de comédie, de sentiments, de tristesse, enfin tous les rapports possibles émotionnels qui se passent au-dessus de la caméra, comme si ça ne touchait pas la caméra, comme si on n'avait pas à regarder ou à entrer dans ces conflits et ces histoires émotionnelles, et donc ne pouvoir ressentir, comme le ferait un chien, les sensations, les impressions que cela provoque. Et le terme de sensation ne convient pas d'ailleurs. Ce qu'il faut dire, c'est plutôt les impressions. Ce n'est pas de l'impressionnisme, non, il faut ressentir, enfin, employons un terme, les ondes qui passent au-dessus de nous, devant nous, et auxquelles nous sommes finalement profondément sensibles. Cette conception-là, donc, perpendiculaire, horizontalité, plus la caméra au ras du sol, implique nécessairement un refus du mouvement d'appareil ou de toute autre technique de continuité que travaille le cinéma. Par exemple, le seul film dans lequel il va utiliser un fondu enchaîné, ce sera en 1928, et après 1928, il n'y aura plus un seul fondu enchaîné chez Ozu. Ce qui donc implique que le mouvement d'appareil lui est interdit. Il n'y a pas à faire bouger la caméra, puisque, après tout, le chien n'a pas à bouger. Le chien dort et reçoit, ressent, regarde par en dessous et voit. Je dis par en dessous, car en effet, si on est en plan fixe et en dessous, les regards ne peuvent pas regarder la caméra. Les regards passent au-dessus de la caméra. Au-dessus de la caméra, ce qui donne aussi, comme construction, l'obligation maintenant de jouer les champs contre champs. Ce champ contre champ que Mizoguchi fuyait va devenir la base même de la construction maintenant du montage de Ozu. Un champ contre champ, mais alors travaillé de façon extrêmement stupéfiante, c'est-à-dire que on ne fait pas des amorces en diagonale, en oblique. Non, on prend un personnage face, qui regarde l'autre personnage qu'on ne voit pas, au-dessus de nous de la caméra, donc le regard passe au-dessus de nous, et immédiatement après, raccord à 180 degrés, c'est l'autre personne qui est à sa place. Et on pourrait presque dire que les personnages sont exactement à la même place, qu'ils se remplacent à cette place-là, et que tantôt c'est l'un, tantôt c'est l'autre, mais qu'au fond, si on les dessinait, si on les découpait, on aurait exactement la même forme et ils seraient exactement à la même place. Ce qui implique une idée, alors encore un peu plus forte, un peu plus générale, comme si tous les personnages qu'ils filment appartenaient à une même société, à une même civilisation, comme s'il n'y avait qu'un personnage, un Japonais, et comme si personne n'était différent les uns des autres. Mais justement, tout le système du film va te montrer que chacun est différent des autres, et ce sont ces multiples nuances qui vont être représentées, et qui vont donc, à ce moment-là, nourrir le récit et la dramaturgie du film. Avec, là encore, comme obligation, puisque nous sommes dans la civilisation japonaise, de la montrer dans sa manifestation même, qui est celle de la famille. Donc, le cinéma de Ozu ne pourra ne parler que de famille, avec les traditions familiales, c'est-à-dire les enfants, les parents, et comment se jouent les rapports. On reste dans la tradition, on la respecte, les parents sont pris en charge par les enfants sont, au contraire, bien guidés, on les marie, et donc, tout le monde est content. Sauf que, à chaque fois, la personnalité, l'individualité de chacun se manifeste, non pas, à différence une fois de plus de Mizoguchi, dans une sorte de révolte à l'Antigone, non, mais au contraire, dans une forme extrêmement souple, fluctuante, flottante, pour reprendre le terme de beaucoup de titres de films de Ozu, Herbe flottante, Printemps, etc. Bon, enfin, on va pas s'amuser à les citer tous, comme si tout cela se faisait d'une façon extrêmement douce, comme si le nom n'était pas affirmé, jamais, n'était jamais affirmé, mais que tous les comportements obéissaient à une façon justement fluctuante d'éviter de dire non, mais de faire en sorte que malgré tout, on dise non. Ou oui, par la même occasion. Mais enfin, la plupart du temps, chez Ozu, il y a une idée de sacrifice, il y a une idée d'obéissance, il y a une idée, par exemple, qu'il faut que la fille accepte le mariage qu'on lui impose, ou le fils la même chose. Il faut que l'on essaye, par exemple, aussi de caser les parents. Enfin bref, toutes les histoires d'une famille, et ces histoires qui sont en même temps très simples, très ordinaires, très familières.
これも牛でさ、なんぞ適当な牛の絵があったら欲しいと思ってましたな。
ではお探ししますわ。
オーケーや、オーケー、大オーケーやで。よかった。立派なみんな。
Le cinéma de Ozu sera donc prosaïque. Pas d'événements extraordinaires, que des petits événements de la vie courante. Donc la familiarité devient l'essentiel de ce que l'on raconte. Mais c'est une familiarité qui se refuse au caractère, je dirais, béat ou béné de beaucoup de films qui se font sur la famille, en particulier dans le cinéma américain, le cinéma français. Enfin, la plupart des cinémas ont travaillé ça, mais restent bêta. Chez Ozu, cette idée-là est présente, le familier est là, mais ce qui est important, c'est le réel. Et le réel, ici, chez lui, n'est pas du tout évacué, au contraire, il est accentué par cette idée de familier, mais en fait, il est totalement transcendé. C'est un réel qui, là encore, passe au-dessus de la tête. En fait, il obéit à une certaine forme de l'imaginaire, ou plus exactement, il laisse deviner l'imaginaire qui habite les personnages, donc le désir, une certaine désir d'échapper à ce réel qui est le leur, ce réel de la famille, et en même temps aussi à cette impossibilité d'y échapper. Si on va encore un peu plus loin, et cela rejoint maintenant et recoupe le montage même de Ozu, ce qui l'intéresse, donc, c'est de montrer qu'on est dans un monde, et en même temps, on est dans un autre monde, un monde que l'on n'arrive pas très bien à définir, et qui est en fait celui de l'affectivité, ou plus exactement celui du désir d'appartenir et de vivre la vie. Et c'est en même temps l'impossibilité de la vivre. Qu'est-ce que ça donne à ce moment-là? Ben, ça donne que le cinéma de Ozu va travailler deux choses en même temps. Le quotidien le plus banal, donc une temporalité, un présent tel qu'il se pratique, un passé qu'on oublie, enfin qui est présent, mais qui est simplement la tradition, etc. Un futur qui est plus ou moins exprimé, il faut marier ou il ne faut pas marier, comment ça va se passer, etc. Bref, des choses tout à fait secondaires et au fond, presque des histoires qu'on se raconte en s'amusant dans les familles. Mais dans le même temps, si c'est le temps et le temps de la mesure, c'est-à-dire le temps pour dire fractionné et comptabilisé, il y a l'autre temporalité qui est la vie elle-même. Ce que filme Ozu, c'est la vie en train de couler ou de s'écouler. À la fois une idée d'éternité et en même temps une idée de l'extrême fragilité du temps. Quand on regarde un film de Ozu, on s'aperçoit que le montage est fait de telle façon que chaque plan qui arrive et qui donc succède au plan précédent est un plan qui vient de marquer l'instant de vie qui a été perdu. C'est-à-dire que, en réalité, on est comme dans un film comme si c'était un sablier où à chaque instant, un instant de vie est en train de partir. C'est-à-dire qu'un cinéma qui parle constamment de la mort sans jamais même évoquer l'idée de mort. Sans jamais même, ce n'est pas vrai, il y a des films, malgré tout, qui l'évoquent. Mais la plupart du temps, la mort est beaucoup plus présupposée ou proposée en imaginaire qu'en réalité. Prenons un film comme Le Dernier Caprice, l'avant-dernier film de Ozu, où on a un personnage, un homme âgé, qui aime la vie, qui est une sorte d'épicurien, qui d'une certaine façon trouble un peu la manière dont on vit au Japon, c'est-à-dire le respect des règles, et qui est en même temps un personnage considéré comme un personnage tout à fait extravagant, mais en même temps qu'on aime beaucoup parce que, justement, il est différent des autres. Et ce personnage meurt, en plus, dans des ébats qui ne sont pas très familiaux. Et il y a son enterrement. Et le moment de l'enterrement de Le Dernier Caprice est un moment sublime sur l'idée justement de la mort en tant qu'elle fait partie profondément de la vie, qu'elle n'est qu'un moment de la vie, là aussi. Et cette idée d'expression de la vie constamment présente, mais en train de fuir, en train de filer entre les mailles de chaque plan, permet à Ozu, justement, de travailler cette idée de mort et de vie quasiment sur la même face.
もしもし。あ、そうだよ。え？何？だからさ、2台はもう来てるんだよ。その他にだよ。わかったね。小型でいいんだよ。もう1台。うん。そうだ。すぐだ。頼んだよ。かけたよ。すぐ来るってさ。
そうか。車はいいと。もう裏の方戸締まりしとけよ。
Par exemple, il filme les enterrements quasiment comme des mariages avec les relations des familles qui sont présentes, et inversement, il filme les mariages comme des enterrements. Pour cela, je renvoie au dernier film de Ozu, Le Goût du Saké, où le mariage est un moment sublime, où évidemment, il y a une séparation entre le père et la fille qui maintenant se voient partir, et le père va se retrouver seul. Et là, dans ce film-là, il y a un plan tout à fait passionnant, c'est que si Ozu travaille sur les deux, sur deux mondes, le monde du sensible, le monde éternel, le monde de l'imaginaire et le monde du réel, il va aussi travailler plastiquement, d'un point de vue sur l'espace, sur deux mondes. Un monde qui est en bas et le monde qui est au premier étage, dans l'escalier. En général, ce monde du premier étage appartient aux femmes, et en particulier à la fille. Mais on aperçoit, dans sa façon de filmer, que des personnages quittent un corridor pour rentrer vers l'escalier. Mais on ne les voit jamais monter, on ne les voit jamais descendre. On est ou bien en bas, ou bien au premier étage. Et dans ce film-là, le dernier film donc de Ozu, d'un seul coup, il y a intervenant brutalement dans le récit la vue de l'escalier vide. Première fois que l'on voit un escalier chez Ozu depuis à peu près une vingtaine ou trentaine de films. Mais cette idée du vide qui est ici restituée par l'escalier a toujours été travaillée chez Ozu, et en particulier à la fin d'une scène, les choses se sont déroulées et d'un seul coup, il n'y a plus de personnage, il y a ou un objet ou une vue absolument, non pas de nature morte, mais où il n'y a rien qui puisse retenir l'attention dramatique. Un plan que l'on pourrait dire, ce serait absurde, mais enfin un plan qu'on pourrait dire vide. Vide comme si tout l'écoulement des sensations, des impressions qu'on vient d'éprouver avaient besoin de s'écouler par cette béance que l'on présente sur l'écran, comme si justement c'était encore une fois de plus la vie qui vient de disparaître. Et on passe ensuite à la scène suivante, où en effet, là, la vie continue, et en même temps, la vie, je le répète, chez Ozu, est toujours présente, et en même temps, toujours en train de passer.
すいません。じゃ、いただきます。どうぞ。あんたもいろいろ医療委員じゃろうに、こんなことまでしてもろうて、本当になんと言うたらええか。ありがとうよ、ノリさん。ありがとう。さあ、お母様、そろそろ。
Peut-être pour resituer ce que je viens de dire sur la complexité de l'écriture de Ozu et le génie de cette écriture, ben revenons à son film le plus connu, qui est Voyage à Tokyo. Voyage à Tokyo, justement, qui reprend tous les grands thèmes de Ozu, à commencer par les rapports entre les parents et les enfants, mais déjà essayer travailler autrement, c'est-à-dire on est après la guerre, en 1953, et déjà Ozu commence à constater l'évolution des mœurs et que ce qui était la tradition est en train de se perdre par rapport justement aux conditions nouvelles de l'existence. Alors c'est le film qui raconte cela, c'est-à-dire donc un couple de gens âgés qui habitent la province viennent à Tokyo pour rendre visite aux enfants. Et ils vont découvrir, sans évidemment se heurter, simplement en constatant, sans faire la moindre réflexion sur la façon dont ils sont reçus par les enfants, mais dont on sent très bien que, justement, toujours la notion d'impression, ils le ressentent profondément, et nous le ressentons profondément, nous n'avons pas besoin de dire ce qu'ils pensent, puisqu'au fond, On comprend très bien ce qu'ils pensent. Mais même entre eux, dans ce couple, c'était la scène magnifique qu'ils passent dans une espèce de station thermale où les enfants, pour s'en débarrasser, les ont envoyés en signe d'affection et où ils sont dérangés toute la nuit justement par les jeunes qui hurlent, qui s'amusent, qui bruquent et eux n'arrivent pas à dormir. Donc, et dans cette scène où ils se parlent justement de leurs enfants, ils se disent que des choses d'une extraordinaire neutralité, des phrases d'une platitude totale, mais qui disent 10 fois plus que si ça avait été des phrases bien pensées. Et dans ce film, ils devront découvrir en fait que la belle-fille, celle donc du fils qui est mort, qui elle est la plus pauvre de tous et qui au contraire va se comporter avec eux en vraie fille japonaise par rapport aux parents. Et les parents reviennent chez eux et en cours de route, la mère meurt dans une gare. Et à la fin, ça se termine de nouveau par un enterrement ou de nouveau réunion de la famille. Et on découvre les intérêts les plus sordides, mais cela restant avec une sorte de sérénité et de grandeur qui rend la fin de Voyage à Tokyo absolument bouleversante. Ozu est un cinéaste qui de plus en plus influence les jeunes cinéastes, les frappe par sa façon justement de regarder le monde, d'en rendre compte de ce monde et de jouer sur toutes les possibilités stylistiques à partir du moment où tout part d'un regard qui est un point de vue qui n'est pas celui d'un auteur, qui n'est pas celui d'un personnage, mais de quelque chose autre qui est là et qui n'est pas là. Bref, revenons à cette idée qui est de Ozu, puisque lui-même l'a dit, à celle du chien de la famille, donc à celle de l'animal domestique qui vit et qui ne sait pas et qui ne peut pas intervenir.
それがき、シリさんとさやはてでな、えらいこって。
ほんともちっと好きじゃったんじゃろ。
いやー、どうも、お恥ずかしいこって。どうも、昔から飲むといかんですわい。
Rien ne semble-t-il est plus facile que de saisir l'art de Ozu. Rien, en fait, n'est plus difficile, parce que justement, d'abord, on reprend le mot « rien », et que comme tout cela se place sur le mot « rien », comme tout cela est fait sur juste les petites choses de la vie courante, sans qu'il y ait aucune possibilité de relier cela à des grandes pensées, à des grandes choses, on peut croire que c'est un cinéma facile. C'est exactement le contraire, c'est un cinéma au contraire d'une grande pensée, d'un sens très profond de ce qu'est la vie. La vie est quelque chose de magnifique, que l'on vit sans savoir que c'est magnifique. Et en même temps, en ressentant quand même que c'est magnifique, c'est cette espèce de complexité, de nuance, en même temps de subtilité, qui est très frappant dans le cinéma de Ozu. Tout à l'heure, on a parlé justement du mariage filmé comme un enterrement chez Ozu. Mais les enterrements filmés d'une façon tout aussi magnifique. Bon, peut-être, à mes yeux, le plus bel enterrement jamais filmé au cinéma est celui dans l'avant-dernier film de Ozu qui est Dernier Caprice, le moment où, après avoir vu un personnage masculin, un homme de certain âge qui est un peu grivois, un peu qui aime s'amuser, qui est vraiment absolument anticonventionnel par rapport aux mœurs japonaises et donc à la fois fascinant pour les Japonais qui sont admiratifs puis en même temps aussi un tout petit peu réprobatifs. Et ce personnage va mourir, il meurt évidemment là où il faut pas mourir, c'est-à-dire chez sa maîtresse. Donc c'était pas quand même très bien. Et à ce moment-là, d'un seul coup, il y a l'enterrement qui se prépare avec la crémation, etc. Et le défilé de l'enterrement est une superbe chose. Et je le répète, esthétiquement parlant, dans le sens fort, je dirais presque à ce moment-là, misogynien, où l'esthétique sert d'abord à la vérité, à la profondeur des choses, c'est l'un des grands, grands moments du cinéma de Ozu. Le seul inconvénient, c'est que ces grands moments du cinéma de Ozu, ils sont extrêmement nombreux dans son cinéma et qu'il faut absolument les voir. Mais aussi extrêmement intéressant de voir que c'est d'abord parce qu'il y a un parti pris stylistique d'une précision absolue, toujours réduite aux axes principaux, comme nous l'avons cité, et que ce travail permet d'être immédiatement dans les choses et constamment en dehors des choses.
Oui. どうしたんだ?おいでよ。
どうしたんだ?来いよ。
来いよ。
C'était une autre histoire du cinéma par Jean Doucher, son Philippe Thibault, mixage Noélie Pellegrin, réalisation François Connac.
Vous aimez quand ça finit bien, mademoiselle ?
Oh oui, monsieur.
Moi aussi.